Et vous écoutez France Culture. Soudain, de puissants jets de lait acide giclent des nichons flasques de Madame Propre avec la force de Dylan s'incendie. Prenez ça, canaille! Érotisme, pornographie et bande dessinée ce soir à Mauvais Genre qui reçoit l'occasion de la parution aux éditions La Musardine de son histoire de la bande dessinée érotique clandestine. L'historien et scénariste Bernard Joubert, évocation entre autres en second temps d'émission des récentes difficultés, le mot est faible, rencontrées par Bastien Vivès à l'occasion de son album Petit Paul. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Mauvais Genre, érotisme, pornographie, bande dessinée, je le répète ce soir, puisque nous avons le plaisir de voir à notre plateau Bernard Joubert. Bonsoir Bernard Joubert.
Bonsoir.
Bernard Joubert, avec qui on a fait jadis une émission historique, on était allé vous rendre visite dans votre repère de la région berrichonne, et on avait découvert avec vous un de vos trésors, c'est-à-dire les archives de Elvie France. Vous avez toujours ces merveilles chez vous?
Oui, les archives Elvie France sont toujours chez moi. Et ça fait longtemps d'ailleurs que je n'étais pas venu dans cette émission, mais c'est toujours plaisir d'y participer, peu comme de retrouver des lointains cousins.
Voilà.
Bonjour cousin François, Bonjour cousin Antoine, cousin Christophe, il a
cousine Céline est là également, vous voyez.
Ça fait 17 ans que vous m'invitez de temps à autre à cette émission.
Voilà, pour chaque fois pour des raisons extrêmement solides, puisque notamment vous êtes venu pour votre énorme livre sur la bande de la censure,
le dictionnaire
la loi de 49,
des livres et journaux interdits,
qui était publié au cercle de la librairie et qui reste toujours une pierre d'angle de toute bibliothèque d'histoire de l'art graphique et d'histoire générale de la censure en France. Donc, bienvenue à Bernard Joubert et pour son panorama de la bande dessinée érotique clandestine, c'est à la Musardine sous le label Dynamite. Il est évidemment flanqué du maître Beer. Comment va-t-il?
Bonsoir, très bien François.
Et donc, bienvenue à Mauvais Genre, mais cette fois en plateau, puisque là, vous ne serez pas uniquement en chronique à la toute fin, mais avec nous, donc pour lire et analyser la publication de Bernard Joubert. Bonsoir Antoine Guillot.
Bonsoir François.
Antoine Guillot qui nous en revient de loin, qui nous revient de Chine.
Et oui, là d'où je viens, il est 4h du matin en ce moment. Je reviens du festival de Pingyao, deuxième édition de ce festival créé par sans doute le plus grand cinéaste chinois actuel, Zha Zhangke, en Chine, dirigé par un grand maître des festivals qui est Marco Müller et qui fait le pari dans cette région un peu excentrée, industrielle et minière, le Shanxi.
Oui, Pingyao.
Alors, c'est dans le Shanxi, c'est une ville multimillénaire, 2800 ans, sans doute la seule ville chinoise antique entièrement préservée, donc lieu magnifique. Et le festival se tient dans une ancienne usine de fabrication de moteurs diesel pour tracteurs, qui lui donne un cachet à la fois industriel et très film d'auteur, puisque c'est l'idée de ce festival, c'est à la fois de permettre au cinéma d'auteur international de rentrer dans le marché chinois, qui est le deuxième au monde et qui ambitionne d'être le premier, mais aussi à de jeunes cinéastes indépendants chinois d'être découverts à l'international, et on y a vu des choses absolument extraordinaires. Et
puis, par exemple, ils
aiment beaucoup, par exemple, un film qui s'appelle Three Adventures of Brooke, qui est un film qui reprend un procédé à la fois mélange de Hong Sang-soo et d'Eric Rohmer, c'est une sorte de rayon vert chinois, mais qui va se passer sur des hypothèses. Une jeune femme crève le pneu de son vélo sur une route de campagne, et en 3 épisodes, elle va rencontrer des gens différents sur la même situation de départ, et qu'est-ce que ça va donner? C'est très beau, très étonnant, mais il y a aussi un goût pour le cinéma de genre là-bas. L'an dernier, il y avait eu une rétrospective Jean-Pierre Melville qui avait ravi tous les spectateurs chinois, parce qu'il y a un désir de voir autre chose que les grosses machines hollywoodiennes qui sont les seules images de l'étranger qu'ils peuvent voir en salle. Donc grand succès pour la rétrospective Jean-Pierre Melville. D'ailleurs, Jonito est de l'affaire aussi. Il y a un des conseillers artistiques de ce festival. Et cette année, il montrait, alors là, c'est les pieds de nez un peu du festival à la censure toujours problématique en Chine, les films soviétiques interdits, les films d'Hélène Klimov et autres, tous ces films des années 70 qui étaient tournés, puisque le système, c'était la beauté du système soviétique, on pouvait tourner à peu près ce qu'on voulait, et c'était au moment de la sortie, après, que ça faisait un problème. Mais ces films étaient tournés, ces films existaient, et l'argument du festival pour pouvoir les passer vis-à-vis du pouvoir chinois, c'est de dire, regardez, même le régime soviétique à l'époque acceptait que ces films soient fabriqués, donc maintenant on peut les montrer en toute tranquillité.
Merci. Antoine, il y a des bandes dessinées érotiques clandestines en Russie et en Chine, Bernard Joubert.
Alors,
j'anticipe sur notre sujet de ce soir.
Des bandes dessinées clandestines politiques
ou pas.
URSS, il y en a eu.
Érotiques,
j'ai pas connaissance. Je suis sûr qu'il y a des pays comme le Japon où il y a probablement aussi des choses, mais j'explique dans l'avant-propos, hein, je me suis limité à ce que je connaissais. C'est déjà assez difficile de trouver, ne serait-ce que les bandes dessinées clandestines françaises.
Comment on va le voir, effectivement.
En Chine, si je puis me permettre, c'est très compliqué, parce que vous savez que beaucoup de livres de bandes dessinées qu'on lit en France sont imprimés en Chine, parce qu'ils ont d'excellents imprimeurs là-bas, et évidemment, ça coûte beaucoup moins cher aux éditeurs que de les faire fabriquer ici. Sauf que, dès qu'il y a une scène qui pourrait être un peu licencieuse pour la censure chinoise, si l'imprimeur l'imprime, il risque de voir sa société confisquée et lui-même de finir en prison. Donc là, j'ai appris le cas récemment d'un livre, a priori, très important qui devait se faire imprimer en Chine, mais finalement ça a bloqué à cause d'une image de nu.
Bernard Joubert.
Quelle est la question?
Ben non, justement, de réagir à cette information.
Oui, non, mais c'est ce que je vous disais. J'imagine qu'il peut y en avoir, mais j'ai aucune connaissance de bandes dessinées érotiques clandestines chinoises.
On va s'attaquer en tout cas avec vous aux bandes dessinées plutôt anglo-saxonnes et européennes. Je salue Christophe Beer. Je signale également qu'il sera le mardi 23 octobre à 18h à la galerie Art Factory pour le lancement de Pulsions Graphiques. On peut en dire un mot, monsieur Beer?
Ah, c'est un livre sur l'histoire d'Elvie France, une sorte de pavé de 480 pages rempli d'illustrations, de couvertures, de pages intérieures et qui nous a permis de retracer l'histoire incroyable de cette maison d'édition française qui puisait dans le matériel italien des Fumetti per Adulti et qui est peut-être l'éditeur français qui a essuyé le plus d'interdictions. C'est bien ça, Monsieur Joubert.
Monsieur Joubert qui en possède des trésors.
On parle toujours à juste titre aussi de la trilogie Pauvert, Losfeld, Régine des Forges, mais il y avait aussi cet éditeur populaire qui vendait en kiosque chez les buralistes, qui a combattu la censure avec acharnement pendant près de 22 ans.
À retrouver donc dans Pulsions Graphiques de Christophe Beer aux éditions.
Aux éditions Cernunnos.
Le lancement donc la semaine prochaine, le 23 octobre, chez Arts Factory à Paris, 27 rue de Charonne. En attendant, place à Céline Duchesnay. Et pourquoi ce soir?
Et pour qui? Pour Grayson Perry. Rendue il y a deux jours à la Monnaie de Paris pour assister à la visite que l'artiste Grayson Perry proposait de son exposition « Vanité, identité, sexualité », exposition qui a ouvert ses portes hier. Alors le but de ma visite était autant de découvrir les œuvres de cet artiste britannique tout à fait star en son pays. Grayson Perry, dans le monde de l'art contemporain, c'est le pape des vases en céramique et du renouveau de la tapisserie, mais je voulais aussi le voir en chair et en os car il est connu pour son travestissement et sa garde-robe démesurée. Alors pour cette occasion parisienne, l'artiste avait revêtu l'une de ses robes les plus fameuses, la rose bonbon à fleurs jaunes avec un chemisier bleu ciel à col Claudine, lui aussi fleuri, collant orange, chaussures rouges, petit panier à la main, maquillé comme une poupée de porcelaine, brushing impeccable, serre-tête avec un grand nœud rose sur le sommet du crâne. Grayson Perry ressemblait à un bonbon délicieux, une sorte d'Alice dévoyée, une poupée grandeur nature d'où sortait sa voix de baryton. Car un des grands thèmes que Grayson Perry aime développer dans son art et à travers sa propre personne, c'est celui de l'identité sexuelle et aussi de la masculinité, à travers notamment son alter ego nommé Claire. « Je suis un homme en robe », explique-t-il pendant l'exposition. « En me travestissant, je ne fais pas semblant d'être une femme. Je vais d'ailleurs aux toilettes chez les hommes. » Alors oui, Grayson Perry a cet humour tout à fait britannique, assez chic et trash en même temps. Et donc les codes de la masculinité m'ont toujours dérangé. Je m'y sens à l'étroit. Et en m'habillant ainsi, ça me permet de sortir des limites sévèrement contrôlées du comportement masculin acceptable. Fin de citation. Donc on l'aura compris, Grayson aime dynamiter les carcans, et ce, depuis qu'il est tout petit. Il est né en 1960 dans une famille ouvrière de l'Essex et il a commencé à s'habiller en femme dès l'âge de 12 ans. Il n'a jamais vraiment cessé depuis, et ce n'est pas son épouse qui s'en plaindra, ni sa fille d'ailleurs. Et sa première œuvre d'art s'intitule Transvestite Jet Pilot. C'est un assemblage de céramique, de photographie et de textile. La céramique, c'est son terrain de jeu et de création. Pourtant, dans les années 80, quand il démarre, c'est un matériau peu considéré dans l'art contemporain, tout comme la tapisserie d'ailleurs, jugée ringarde, mais c'est justement ce qui plaît à Grayson Perry. Il aime utiliser ses formes un peu datées pour défendre son point de vue et faire des commentaires mordants sur la Grande-Bretagne, ses particularités, les us et coutumes de ses habitants, les différentes classes sociales, ou alors tout simplement sur la société de consommation en général. Ce qui fait que Grayson Perry a vraiment quelque chose de l'anthropologue excentrique. Ses céramiques, ses tapisseries ou ses sculptures reflètent ses réflexions sur le monde britannique, ses enquêtes et ses terrains de prédilection. Et il ne faut pas rater sa tapisserie sur le Brexit, ni celle sur l'aristocratie. L'humour, les couleurs, la forme des personnages et les métaphores font que vous allez passer un bon bout de temps à savourer chaque détail. Et cerise sur le gâteau, la première salle réunit ses plus belles robes autour d'un tableau de Grayson Perry, clin d'œil à l'Olympia de Manet, représentant une créature nue avec le visage de Grayson Perry, une poitrine féminine et un sexe masculin entouré d'objets du quotidien, dont son extraordinaire papa mobile et son ours en peluche que vous retrouverez aussi dans l'exposition. Donc un conseil, un seul, allez voir Grayson Perry Vanité, Identité, Sexualité. Ça se tient à la Monnaie de Paris, à Paris, jusqu'au 3 février. Et conseil d'amis, il y a une conférence de Grayson Perry le mercredi 21 novembre à 19h30, donc pour ceux qui sont fluents en anglais, à ne pas rater.
Merci Céline pour cette jolie présentation de Grayson Perry qu'on pourra retrouver sur notre site. Vous avez vu le personnage ?
Ah mais bien sûr,
je l'ai même. À quoi ressemble son...
À ce que je vous ai dit, un bonbon rose avec un magnifique ruban dans les cheveux. Donc c'est vraiment un homme déguisé en femme et c'est pas un homme qui essaye de se faire passer pour une femme. Ça qui est très important, puis c'est un showman.
Donc il joue à fond le travestissement.
Oui,
là.
Et puis le travestissement pour réfléchir, le travestissement en œuvre d'art. Et puis c'est quelqu'un aussi qui communique beaucoup grâce à la télévision parce qu'il a des programmes sur Channel 4 où il défend son art et sa vision du monde. Donc une sorte de dynamite sur pattes, je dirais.
Comme Bernard Joubert.
il n'est pas habillé Bille. De la même manière.
Non mais dynamite, c'est la maison d'édition
bon,
publique Bernard
très bien.
Joubert.
Oui, une question. Est-ce qu'il porte des faux seins ?
Non.
Ah voilà.
Non.
Ah voilà. Donc il tient quand même
Maître Bire
à garder,
a trouvé la faille.
À garder, à montrer cette ambiguïté.
Ah oui, et vraiment l'idée c'est de ne pas passer pour une femme. Et avant il avait tendance à être travesti et à vouloir se faire passer pour une femme jusqu'à ce qu'il réalise qu'il était bien plus intéressant de se sentir homme et de provoquer comme ça un petit peu la population avec des tenues de femmes tout de même assez particulières. Je connais peu d'entre nous qui se promènent dans des tenues aussi excentriques, même dans des soirées à thème.
Oh, tout est possible. Quelques mots sur le MUF.
Oui, le MUF. Alors là, c'est sans transition et à l'autre bout de la France, mais à Marseille. C'est la troisième édition qui va bientôt se tenir, donc du MUF, le Marseille Underground Film et Music Festival, qui se tient du 24 au 28 octobre dans différents lieux à Marseille. Donc il y a le Vidéodrome 2, l'Embobineuse, la Baleine. C'est un festival.
L'Embobineuse
qui... L'Embobineuse et la Baleine, beaucoup de B. Festival qui présentera ses dernières étrangetés visuelles et sonore, donc il y aura aussi bien de l'expérimental culte que du gore, mais aussi il y aura des archives de la London Community Video Archive, il y aura deux longs métrages du réalisateur soudanais Gadala Gumbara, un hommage à Barbara Hammer, et bien sûr, comme la tradition du festival le veut, un film de fesses avec des scènes d'amour non simulées, ai-je noté, ce sera Queen Bee Empire du néo-zélandais Samuel Chanoy. Je ne sais pas si Christophe Beer vous le connaissez.
Je le sais, monsieur Beer.
Mais pourquoi disent-ils film de fesses?
Film de fesses avec scène d'amour non simulée, c'est ça qui est intéressant. Après, film de fesses, c'est joli.
Merci Céline et longue vie au MUF.
Mif.
Film de cul.
Choix de Laurent Polleret pour cette playlist érotique ce soir dans Mauvais Genre sur France Culture. Alors Bernard Joubert, dernier ouvrage paru, Panorama de la bande dessinée érotique clandestine, dans l'introduction duquel j'extrais ces mots. Si vous êtes de ceux qui pensent que c'est mieux quand c'est suggéré, quittons-nous bons amis et passez votre chemin, il y aura trop à voir. Alors qu'est-ce qu'il y a à voir de trop, monsieur Joubert ?
Eh bien c'est qu'il n'y avait pas d'intérêt à faire de la bande dessinée clandestine si elle était soft. Puisque de toute façon on était hors la loi, il fallait qu'elle soit hard pour plaire aux lecteurs, et puis on risquait pas, voilà, on y allait carrément. Donc c'était la bande dessinée érotique mentionnée dans le titre de mon ouvrage, c'est pas un mensonge, mais il faut considérer qu'en fait c'est la bande dessinée pornographique clandestine, la pornographie selon ma conception étant faisant partie de l'érotisme.
Christophe Beer.
Il suffit de feuilleter, de lire toute cette anthologie pour se rendre compte que nous avons vraiment affaire uniquement à du hard, y compris de la part de grands artistes. Alors, on va avoir affaire à un terrain vraiment incognita avec des artistes qu'on n'a jamais pu identifier, mais je pense à ce n'est pas une bande dessinée d'ailleurs, mais cet ouvrage, ce Curiosa, extrêmement connu de tous les amateurs, Idylle printanière.
Un portfolio, très exactement.
C'est un portfolio avec des planches sans texte, une suite d'images avec donc une chronologie. C'est du dessinateur Rogent, grand illustrateur, et c'est extrêmement beau, très fin, mais c'est effectivement pornographique.
Il n'y a
pas l'ombre d'un... Je ne crois pas dans ce panorama, pas l'ombre d'une histoire érotique, soft.
Soft. Non, mais alors, des bandes dessinées érotiques soft, elles paraissaient de façon non clandestine, bien sûr. Et dès la fin du 19e siècle, on peut trouver quelques très courtes. Alors j'en parle dans l'avant-propos.
Oui, dans l'avant-propos.
Voilà,
oui.
Parce que la bande dessinée érotique apparaît non pas dès les débuts de la bande dessinée, 1830, Töpffer, curieusement, alors que pour le cinéma, très rapidement, dès l'invention de la technique cinématographique, il y a des films érotiques et pornographiques qui sont tournés. Pareillement pour l'invention des procédés photographiques, tout de suite, allez, on photographie des dames nues et des rapports sexuels. Même Georges Méliès, enfin, dans les tout premiers films, il filme Jeanne d'Alcy en train de prendre sa douche et elle est censément être nue, elle a des très grosses fesses d'ailleurs, mais en fait elle avait un maillot juste au corps, couleur de la peau. Donc ça se produit immédiatement pour ces techniques-là, alors que dans la bande dessinée...
Idem pour la photographie.
Oui, pareil pour la photographie. Dans la bande dessinée, des décennies se passent avant qu'on puisse commencer à repérer de façon sporadique et en petite quantité des bandes dessinées érotiques, soft, non clandestines, dans des revues qui sont des revues de dessins humoristiques. Et la bande dessinée y apparaît comme un petit bouche-trou, comme une sorte de dessin humoristique un peu différent des autres. Voilà. Et par contre, les albums de bande dessinée érotiques ou pornographiques, ça apparaît bien plus tard, ça.
Mais ce qui est intéressant, c'est que quand
Antoine Guillot,
vous parliez de l'impact du cinéma et que très vite on va tourner des films pour Maison Close ou Riches Amateurs, le dessin va passer par l'animation aussi. Ce que vous montrez, c'est que les premiers et sans doute ce qu'on connaît le plus de ce corpus, puisque certains ils ont beaucoup été réédités, notamment en France chez Alia, les Dirty Comics ou Tijuana Bible et autres reprennent des personnages de bande dessinée, mais qui sont avant tout des personnages de l'animation. Quand on va prendre Betty Boop, c'est parce que c'est un personnage de dessin animé. Et Popeye, ça va être moins le Popeye des comics que le Popeye animé qui revient au cinéma.
Oui, c'est quand même une idée discutable, parce qu'il y a Flash Gordon, il y a Dick Tracy, mais il y a beaucoup de personnes, la famille Lico, beaucoup de personnages de bande dessinée, strictement de bande dessinée, qui sont pastichés, parodiés plutôt, je dirais, en BD clandestine pornographique aux États-Unis.
Non, il faut qu'il y ait déjà quelque chose d'adapté. C'est ça que je voulais dire. Par rapport à Töpfer, quand vous dites c'est étrange que dès le départ, il faut d'abord qu'il y ait la possibilité de se réemparer de succès de presse, que sont ces personnages qui étaient lus dans l'ensemble des États-Unis grâce au principe de la syndication. On prend des personnages connus qu'on parodie. Où il n'y a pas dès l'origine une création propre à la bande dessinée. C'est ça que je voulais dire.
Oui, mais c'est quand même très étrange que. Que ce soit Töpfer, que ce soit Gustave Doré, que ce soit Christophe, ces gens qui font des livres de bande dessinée au 19e siècle, il n'y a pas quelqu'un qui ait envie de faire la même chose en érotique.
Donc effectivement, là, on parlait du cinéma. Je me souviens dans le film de Bertrand Tavernier que la fête commence, à un moment là, on est dans les orgies du régent. Et au bordel, le régent se donne le plaisir de voir des théâtres d'ombre pornographiques. Donc il y a déjà une sorte de pré-cinéma pornographique et érotique qui est très ancien. Je pense que Tavernier l'a fait allusion à des objets historiques connus et répertoriés. Donc effectivement, il y a quand même un rapport à l'image pornographique qui est très ancien sur le plan du cinéma et de l'animation. Et donc la bande dessinée a attendu son heure. Alors c'est un panorama, c'est donc un choix. Quels ont été les critères du choix, Bernard Joubert ? D'abord sur le plan historique, sur le plan des cultures, des différents pays et des textes choisis.
Alors les pays dont je parle le plus, ce sont les États-Unis. Ça, c'est un pays qui avait déjà été très étudié par les Américains eux-mêmes. Hein. Des bandes dessinées qui sont rééditées depuis les années 20-30. On appelle ça donc des Dirty Comics, des Eight Pagers ou des Tijuana Bible.
On peut citer le livre traduit aux éditions de La Martinière.
De Bob Adelman, oui. Oui. Enfin, traduit, ils n'avaient pas traduit les bandes dessinées, justement. C'était un reproche qu'on pouvait leur faire.
C'est vrai.
Ouais. Mais dès les années 60, on trouve déjà des recueils de Dirty Comics réédités aux États-Unis. Et puis le grand historien du genre, c'était Donald Gilmore, en 1971, avait sorti 4 volumes, Sex in the Comics. Et donc ça, c'est un territoire déjà bien exploré. Je parle du Brésil, qui est connu des Brésiliens, mais je crois pas des lecteurs français. Et puis, ce qui m'a le plus motivé, c'est de parler de la France, parce que je me suis rendu compte que c'était, alors la terra incognita, complètement quelque chose d'inconnu des spécialistes de la bande dessinée française. Quand en Angoulême, ça fait une quinzaine d'années que j'ai envie de faire quelque chose sur la bande dessinée clandestine, quand j'en parlais à mes collègues qui travaillent sur l'histoire de la bande dessinée, et les plus pointus, je vous prie de me croire, ceux qui font des gros dictionnaires chez les grands éditeurs pour raconter l'histoire de la bande dessinée, ils me disaient, mais ça existait la bande dessinée clandestine, c'est même pas quelque chose dont ils avaient simplement entendu parler, ou ils en auraient eu un exemplaire, ou il n'y avait pas un livre, sur la bande dessinée érotique qui l'évoquait, et il n'y avait même pas un article qui en parlait. Donc ça, c'était vraiment ma première motivation, de par intérêt scientifique, de faire savoir que ça existait.
Alors, qui sont justement les artisans de cette bande dessinée érotique clandestine ? Est-ce que ce sont des gens qui, comme on en parlait précédemment avec Antoine, ont des difficultés financières ou ont la nécessité comme ça de remplir des cases dans leur emploi du temps et se livrent à des activités non signées ? Ou est-ce qu'il y a des spécialistes ? Quelle est un peu l'identité des quelques personnes que vous avez retrouvées d'ailleurs ?
Ben non, c'est très difficile de les retrouver. Ah non, vraiment très difficile, parce que les gens n'en parlent pas. Ceux qu'on peut éventuellement reconnaître, il faut encore qu'ils veuillent bien avouer. Voilà, j'ai reconnu un dessinateur, je suis sûr que c'est lui, il a plus de 90 ans, et quand je lui demande si c'est bien lui qui a fait cette bande dessinée, il me dit non, c'est pas moi, mais c'est évident que c'est lui. Donc il est vraiment difficile d'avoir des informations concernant les auteurs, concernant les éditeurs, concernant le circuit de distribution. Alors ce que l'on sait, c'est que par exemple Eric Losfeld a publié beaucoup de livres de romans clandestins dans les années 50. Il le raconte lui-même dans ses mémoires. Et une des bandes dessinées que je reproduis dans mon panorama, probablement là, le premier album de bande dessinée pornographique clandestin, c'est Eric Losfeld qui l'a sorti. Ça s'appelle Suzanne écolière d'amour. Le dessinateur, par contre, ou les auteurs, peut-être étaient-ils nombreux, mais enfin, je pense qu'il y avait une seule personne derrière ça. On ne sait pas qui c'est, et c'était probablement un amateur, parce que j'ai repéré qu'il avait beaucoup plagié. C'était sans doute un mauvais dessinateur, et qu'il avait beaucoup plagié des comic strips existants.
Antoine. Justement, je me demandais quel est le corpus de départ, parce que par nature, ces livres ne sont pas déposés à la Bibliothèque nationale, donc il suffit pas d'aller y faire un saut pour retrouver l'exhaustivité de ces livres. C'est votre propre collection. Vous avez fait appel à des collectionneurs, parce que j'imagine que ça, c'est ce qu'on a retrouvé et qu'il est possible qu'il en existe quantité d'autres qui n'ont pas encore refait surface et qui voudront le coup de faire un deuxième volume de ce panorama.
Alors. Durant ces 15 années, j'ai commencé à en parler donc à des spécialistes de la bande dessinée. Personne ne connaissait. La première personne qui a dû me dire qu'il en avait, c'était le dessinateur italien Roberto Baldazzini, avec qui je collabore souvent, et qui s'intéresse pas uniquement à la bande dessinée, mais aux livres érotiques en général, et même aux journaux sentimentaux. Et il m'a dit, si Bernard, j'en ai des fumetti clandestini. Il m'en a envoyé trois en italien, dont un que je reproduis qui s'appelle I naufraghi, les naufragés. Et la deuxième personne qui m'a su me trouver des... Parce que moi-même, j'en possédais pas, je suis pas spécialement collectionneur, je suis journaliste, donc je m'adresse à des collectionneurs, qui a pu m'en trouver, c'était Roger Finance, qui était un monsieur qui travaillait à Toulouse et qui avait des chaînes de sex shop, qui distribuait des livres dans les sex shops depuis l'origine des sex shops. Il avait même commencé du temps où les poils pubiens étaient encore outragés les bonnes mœurs, et il vendait des photos avec poils pubiens pour payer ses études.
Et c'était l'éditeur de Joseph Farel.
C'était l'éditeur de Joseph Farel, dessinateur qui de très mauvais genre. Et puis enfin, la troisième personne qui m'a beaucoup aidé pour ce livre, c'est Christophe Beer, ici présent. Voilà. Et alors pourquoi est-ce que Christophe Beer, par exemple, connaît plus les livres clandestins que vous, Antoine, qui êtes spécialiste de la bande dessinée, les bandes dessinées clandestines? C'est parce que lui, il ne s'intéresse pas vraiment à la bande dessinée en général. Il ne passe pas ses journées à lire de la bande dessinée grand public, du Jean Van Hamme, tout ça, ça n'intéresse pas. Lui, ce qu'il
moi
aime,
non plus, je
c'est
vois
ce qui est caché, c'est ce qui est sale, c'est ce qui est trash, c'est ce qui est très mauvais genre. Voilà. Et il s'intéresse surtout aussi aux romans clandestins. Et la bande dessinée française clandestine, en fait, est une branche du roman clandestin. Voilà. Quand je vous disais que Eric Losfeld est le premier à sortir un album de bande dessinée clandestine, c'est parce qu'il commence d'abord par sortir des romans, puis des romans illustrés, puis des romans très illustrés, au point même que les spécialistes des curiosa, comme on appelle ça, appellent ça des bandes dessinées. Mais si vous y regardez de plus près, non, il n'y a pas la structure d'une bande dessinée. Il y a beaucoup d'images, parfois même des bulles, mais c'est encore du roman très illustré. Et puis un jour, quand même, voilà, on est en probablement 1958, c'est une bande dessinée, tout le monde le reconnaît.
Mais en fait,
Christophe Beer.
Je ne pense pas que la production française soit énorme, et c'est vrai que c'est très intriguant. Les Américains en ont fait énormément, les Eight Papers, les Tijuana Bibles. C'est un peu l'équivalent des films porno clandestins, des pornos
primitifs.
Des
films de bordel et autres.
Et en France, les films primitifs étaient également... il y avait une grosse production clandestine. Il y avait là, de part et d'autre, France, États-Unis, pour la pornographie cinématographique, il y avait une équivalence. La France était peut-être même un des plus gros producteur que les États-Unis. Et en revanche, pour la bande dessinée, ça, on ne trouve plus du tout cette équivalence.
Ni pour vraiment... les tirages aussi.
Parce que,
les Américains tiraient des dizaines de milliers d'exemplaires leurs petits fascicules.
On trouve encore assez facilement des Tijuana Bibles originaux, parfois aux enchères. Ils
ont été beaucoup réimprimés pendant des décennies. Donc, 50 000, 60 000 exemplaires d'un petit fascicule. Donc, il en reste toujours, même si, bien sûr, on a beaucoup jeté ça.
Ça vient peut-être tout simplement du fait que faire une bande dessinée, enfin, il faut payer le dessinateur. Ça peut représenter un travail conséquent. Donc, un paiement conséquent, alors qu'un roman clandestin, souvent a été bâclé, écrit à la va-vite en quelques jours, l'auteur clandestin se contentait d'un très maigre salaire et tout le monde y trouvait son compte, surtout les éditeurs et les diffuseurs. Quant aux White Papers américains, qui sont des petites bandes dessinées, là, ça doit, la facture se fait assez rapidement. C'est quelque chose qui est fait très vite et qui peut-être est payé quelques dollars, je ne sais pas. En France, on n'a pas la culture des petites bandes dessinées de 8 pages.
Il n'y a pas eu une bande dessinée clandestine populaire en France. C'était une bande dessinée visiblement pour bibliophiles, pour amateurs de livres qu'ils mettaient dans leur bibliothèque, alors que les Dirty Comics et les White Pages américains, c'était les écoliers qui avaient ça dans leur poche. Et les tirages français, pour autant qu'on puisse se fier aux justifications de tirage de ce genre de publication clandestine, ça allait de 150 à 1000 exemplaires.
Et les réseaux de diffusion, alors, quels étaient-ils?
C'était vendu sous le manteau.
Sous le manteau, c'est-à-dire, on parlait des écoliers, donc ça, on les récupérait, soit on les volait aux adultes.
Pas en France, par contre aux États-Unis, oui. Alors là, c'était vendu chez les...
Sous plus discret ou...
Non. Enfin, c'était vendu dans les garages, chez les marchands d'outils, aux pompes à essence, chez les coiffeurs pour hommes, parce que c'était un produit pour hommes.
Et dans les écoles,
dans des librairies aussi.
Il y avait des circuits de distribution comme ceux de la drogue. C'est-à-dire que vous racontez dedans que des gamins... Vous pouvez en acheter chez des grossistes à 10 cents et les revendre en doublant ou triplant la mise. Enfin, il y a tout un réseau aussi qui se met en place.
On ne passait pas directement de l'éditeur, distributeur et vendeur. Il y avait beaucoup d'intermédiaires et un gamin plus déluré que les autres allait s'en acheter 20 exemplaires sous le comptoir d'un libraire et revendait ensuite en doublant le prix dans son école. Mais c'était des prix qui étaient très bas, 10 cents, 20 cents, 30 cents.
Mais vous avez eu accès à des rapports de police, à des enquêtes qui auraient pu vous...
Oui, alors je parle d'une commission enquête au vert qui nous permet d'avoir quelques prix, quelques noms de personnes, qui est un sénateur qui avait beaucoup lutté contre la bande dessinée.
Et la mafia.
Par contre, il est probable que les Dirty Comics, contrairement à ce qu'on a pu écrire dans le passé, n'était pas une production liée à la pègre. C'était plutôt des petits entrepreneurs qui voyaient là une façon de se faire facilement de l'argent.
Je vous dis que la pègre, elle, se réservait ce qui était beaucoup plus fructueux, c'est-à-dire le cinéma. Cop Killers, un choix de Laurent Polleret pour Mauvais Genre ce soir sur France Culture. Alors, il y a deux aspects, moi, qui m'ont semblé tout à fait intéressants dans ce panorama de la bande dessinée érotique clandestine Bernard Joubert. C'est l'aspect parodique, bien évidemment, et l'aspect politique. À voir que la propagande politique rejoint la pornographie on demande à la pornographie de mettre sa véhémence au service des combats politiques. On va voir ça un peu plus tard. Mais surtout, la parodie, puisque, les bandes dessinées érotiques clandestine s'attaque à Betty Boop, s'attaque à Popeye, à Mickey ou à Superman. Donc il y a peut-être la volonté au départ de partir d'icônes populaires qui semblent comme ça, pas sacralisées, mais qui, le mot le dit bien, qui semblent participent d'une sorte de consensus sacré, de les pousser un petit peu sur le bas-côté.
Oui, vous avez tout dit là, effectivement. C'est ça, le début des Dirty Comics. Hein, ce côté, on prend un acteur vedette et on nous fait découvrir ce que peut être sa vie sexuelle. Et puis, c'est Popeye. J'aime beaucoup les parodies de Popeye parce que, en fait, on pourrait croire que c'est des véritables strips de Segar. Hein. Le personnage de Popeye se prête très bien à la parodie pornographique. Il a évidemment un très grand sexe, mais on imagine que c'est parce qu'il a mangé des épinards. C'est comme ses muscles. Hein. Et puis il est un peu rustre, comme il l'est également dans la bande dessinée. Donc il y a des saillies à la hussarde. Et quand il y a également son compagnon Wimpy, qui s'appelait Gontran en français. Gontran, qui était très gourmand et toujours affamé, est prêt à quitter une jolie jeune femme pour aller baiser la cuisinière parce qu'elle est en train de faire des sandwichs.
Ces livres que vous republiez ne sont pas tous égaux. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a un investissement plus ou moins fort de l'auteur, enfin du dessinateur qui se cache derrière. Et justement, c'est très fort avec Popeye parce qu'il a compris le personnage. C'est-à-dire qu'il crée des scènes, vous le dites, à la Segar, et il pousse jusqu'au bout de la pornographie le principe même du personnage. Quand c'est Minnie ou d'autres, on sent que c'est juste le détournement et c'est l'image qui intéresse, c'est la profanation presque de l'image d'innocence. Donc, je ne sais pas si ces bandes dessinées de Popeye sont signées ce mystère prolifique qui était extrêmement, qui est extrêmement prolifique, mais lui est très talentueux parce qu'il arrive à comprendre le personnage et c'est là sans doute que ça fonctionne le mieux.
Oui. C'est à mon avis le meilleur auteur de Dirty Comics, Mister Prolifique, avec Wesley Morse qui est aussi un autre auteur. Alors le Wesley Morse a cette particularité que c'est le seul auteur de Dirty Comics qu'on a vraiment identifié. Hein. C'est Art Spiegelman qui a reconnu son style parce que Spiegelman avait travaillé pour la Topps Company qui était une société qui existe toujours, qui fabriquait des trading cards, des vignettes à collectionner comme les Panini en France. Et Spiegelman a commencé à travailler pour la Topps Company au début des années 60, au moment où Wesley Morse finissait sa carrière dans cette boîte. Wesley Morse avait créé des vignettes de chewing-gum s'appelait Bazooka Joe. Il y avait une petite bande dessinée dans les chewing-gums avec ce personnage. Et puis Morse est mort, voilà, et on ne s'est jamais lui révélé. Mais on a reconnu son style, et la famille de Wesley Morse a reconnu que c'était leurs parents, et ils ont depuis sorti une biographie racontant sa carrière.
On sait justement pourquoi lui s'est mis à faire ces Dirty Comics, lui qui était un auteur de comics tout à fait reconnu. Et non.
Non, j'ai pas lu de ce qui l'aurait poussé. Est-ce que c'était pour des raisons financières ou est-ce qu'il aimait ça? Il aurait fallu lui demander personnellement.
Mais ce que disait Antoine me semble tout à fait juste, au sens où, effectivement, là où ça fonctionne le mieux pour ce qu'une bande dessinée pornographique, c'est quand il s'agit pas de rajouter, de tenter de greffer du pornographique sur un personnage que l'on connaît par ailleurs, comme étant une bande dessinée mainstream, avec des aventures, imaginaires, mais peu importe. C'est que, par exemple, prends le cas de Popeye, effectivement, il est connu pour ses gros biceps, il est connu pour sa force liée aux épinards, et il s'agit de radicaliser le personnage, c'est-à-dire de le pousser dans ses retranchements. Et c'est là, effectivement, où c'est le plus efficace, c'est quand le personnage n'est pas défiguré, je dirais, si on prend comme ça, ou retransformé, mais au contraire radicalisé par la pornographie.
La question étant de savoir
Betty Boop
est homosexuelle ou pas.
Et séduisante. Et on pousse sa séduction au maximum. Popeye est musclé, puissant, et on pousse sa musculature et sa puissance vitale au maximum avec effectivement des crises de priapisme absolument retentissantes. Je cite une bande. Si c'est pas salé, bébé, dis-toi que c'est parce que je suis pas un marin d'eau douce.
Vous mettez même l'accent qu'on peut imaginer à Popeye.
Ce que vous dites sur l'homosexualité d'Hitler, là encore, il pousse le principe.
On va en parler.
Jusqu'au bout, parce que si on prend l'esthétique notamment de la sculpture nazie, de la glorification du corps pur, jeune et musclé, on n'est pas très loin de Tom of Finland dont vous parlez aussi dedans. Donc là, on n'est pas surpris non plus. Puis on sait ce qui pouvait se passer parfois dans les corps des SA. Ça a été beaucoup les accusations qu'on a lancées.
Tom of Finland dans sa jeunesse,
au moment de la nuit des longs couteaux, on parlait beaucoup de l'homosexualité des SA. Donc là, la logique est poussée aussi jusqu'au bout. Alors, alors, et sans doute de façon inconsciente, puisque dans l'esprit de l'auteur, il s'agit certainement plus de déviriliser Hitler et donc d'en faire un objet de moquerie en disant, regardez, en fait, ce n'est qu'un homosexuel.
On va reparler d'Hitler, on a parlé de Popeye, de Betty Boop, Mickey. Alors là, par contre, Mickey, effectivement, il s'agit un peu de pousser Mickey dans le dirt, parce que la morale de Walt Disney est quand même assez...
Non, oui, mais j'explique quand même que dans les premiers strips de Mickey, il passe vraiment beaucoup de temps à se bisouiller, à se faire des câlins avec Minnie.
C'est du bisouille.
Oui, d'accord, enfin, il s'en lasse, ça n'arrête pas. Donc, il suffit de montrer un petit peu plus que ce qui était montré dans les strips.
N'oublions pas que c'est une souris, quand même, ce qui pose un certain problème pour le lecteur, à moins d'être zoophile. C'est pour ça que les personnages que nous évoquons humain, comme Popeye fonctionnent bien. Et il y avait un personnage aussi qui a eu beaucoup de succès dans les Dirty Comics, c'est Mae West, qui était donc au cinéma l'incarnation d'une liberté
est déjà
sexuelle.
Fait, voilà.
Et oui, c'est un peu le Popeye féminin.
Le cinéma l'avait déjà révélé comme une sorte de
déesse de la... Les parodies, enfin les satires politiques, je trouve qu'elles ne fonctionnent pas comme charge pornographique. Elles ne procurent pas une émotion pornographique.
On va en parler. J'aimerais qu'on parle avant de Superbeat, Monsieur Bire.
Superbeat.
Parce que vous avez amené un exemplaire.
J'ai la chance d'avoir
des heureux possesseurs de Superbeat.
Il faudrait décrire à quoi ça ressemble.
Ah bah oui, Monsieur Bire.
Eh bien, c'est une bande dessinée française, précisons.
Elle est française. C'est Superbeat ou la double vie de Herbert Dugenet. Le volume
est...
L'auteur est Suslet, cul pourri. c'est signé tout de même. Et c'est une petite brochure format A5 en vertical avec deux énormes agrafes qui tiennent des pages en carton fort. Et... Donc c'est du noir et blanc, et l'exemplaire que j'ai, comme il arrive souvent dans la pornographie, il y a quelques cases qui ont été coloriées par le lecteur qui avait...
Par le lecteur. Trouvé où, Monsieur Bire ?
L'exemplaire vient de Lyon, trouvé sur une brocante lyonnaise.
Bernard Joubert, alors que Superbeat. Alors là, c'est Superman avec la double identité, D'un côté, un employé de bureau à la vie érotique.
Aucune mention d'éditeur, une mention d'auteur canulardesque.
Ça fait penser, en fait, ça m'a fait penser au Magnifique avec Belmondo. Ce personnage un peu falot, un employé de bureau qui rêve des expériences sexuelles, qui subit un peu la tyrannie de son patron. Et
mais alors, il y a censément une parodie de Superman, mais on sent que l'auteur n'est pas très grand lecteur des véritables bandes dessinées de Superman. C'est juste le principe du personnage falot qui...
Il se rêve en Superman.
Avec des bulles intéressantes, d'un violent crochet, Superbeat, mais KO, le vilain méchant pas beau. Sabine en extase, l'implore à genoux de ne pas trop lui abîmer son chef de bureau car elle risque d'en subir les conséquences après. Parce qu'il y a aussi quand même une espèce de cadre comme ça qui est la vie de bureau avec le chef de service qui abuse tenté de manière régulière de ses secrétaires et de la femme de ménage et puis d'autres des subalternes qui sont un peu humiliés par la virilité permanente du personnage et Superbeat intervient là-dedans comme une sorte de justicier.
Oui, mais là vous vous intéressez à l'œuvre elle-même.
Moi je fais de l'analyse.
Moi, je m'intéresse beaucoup plus à l'objet, par exemple. C'est quoi cet objet ? Pourquoi est-ce que c'est dessiné en strip, par exemple ? C'est un album, ça ressemble à un album, avec trois lignes de cases par page. Mais en fait, on se rend compte que ça a été dessiné par strip. Et j'imagine très bien le dessinateur qui n'a pas de place chez lui, qui fait ça sur un coin de table et qui est obligé de travailler tout petit. Ça, est-ce que il est étudiant, peut-être. Alors, on situe ça dans les années 50, probablement.
Oui, c'est difficile à dater.
Moi, je dirais peut-être première moitié des années 50. Et puis, quel est l'auteur ? Alors, par exemple, là, je retrouve que ça ressemble à un jeune James Hodge, qui est un auteur illustrateur de pin-up français, mais qui n'aurait pas encore tout à fait son style. Mais on reconnaît certaines habitudes qu'il a pu avoir par la suite. Alors, je l'ai interrogé. Je lui ai demandé si c'était lui. Il m'a dit que non. Mais peut-on croire? C'est ça le problème.
Voilà, c'est ça. Il faut faire arriver à faire avouer le dessinateur ou celui qui fut l'auteur. Donc de,
moi, je pense à quelqu'un qui aime beaucoup Bernard Buffet, parce qu'il y a des traits assez anguleux comme ça, une façon de tracer des grandes lignes dans le dessin. C'est peut-être un étudiant en architecture qui aime Bernard Buffet. Je ne sais pas si ça donne un indice intéressant.
De Bernard Buffet, question. Y a-t-il des érotiques de Bernard Buffet, Antoine Guillaume?
Alors là, vous me prenez complètement en défaut. C'est peut-être lui qui a signé ce livre, en fait.
'Culture, mauvais genre, François Angelier.
Qui est heureux ce soir de recevoir Bernard Joubert pour son panorama de la bande dessinée érotique clandestine aux éditions La Musardine sous le label Dynamite. Alors on évoquait l'aspect, Bernard Joubert, l'aspect politique, effectivement, l'effort de guerre. Dès que les États-Unis entrent en guerre contre les puissances de l'Axe, tout le monde relaye l'effort de guerre à la fois dans l'économie, les finances, mais aussi bien sûr sur le plan culturel et sur le plan du cinéma, on le sait, mais aussi sur le plan de la bande dessinée et de la bande dessinée érotique. Et là, au contraire, effectivement, le personnage d'Hitler est représenté, lui qui se veut comme l'incarnation du mal germanique et qui donne de lui une vision divine, surhumaine, là au contraire, est montré comme quelqu'un qui est soumis à ses pulsions et qui est totalement obsessionnel.
Là, vous faites allusion à une bande dessinée, une fois encore, de Mister Prolifique que l'on évoquait tout à l'heure, donc très bien dessinée, et qui a comme particularité d'être peut-être la première bande dessinée homophobe, que, en tout cas la plus ancienne que je connaisse. Il y avait déjà dans les Dirty Comics des passages homosexuels, sans que ce soit spécifiquement des bandes dessinées gays, mais au cours d'une partouze, le Major Hoople allait sodomiser un gars de la famille Illico, par exemple, qui s'appelle Jiggs en anglais, Monsieur Illico. Mais ça s'est limité, on va dire, à un gag ou à une bisexualité des personnages. Tandis que pour Hitler, voilà, il s'agit de décrédibiliser Hitler, hein, c'est une bande dessinée américaine, et quel est son pire des défauts? C'est pas qu'il commet des meurtres en masse, qu'il veut envahir l'Europe, c'est une bande dessinée qui doit dater de 1939, c'est que c'est un homosexuel refoulé.
Donc il date d'avant de l'entrée en guerre de l'Amérique. C'est situé avant. Donc c'est quand même intéressant.
Et les cannibales.
Voilà, bah oui, lui trouver toutes les qualités. Antoine Guillaume.
Et c'est là qu'il faut saluer le talent d'adaptateur de Bernard Joubert, parce que ce qu'on dit pas, on parle beaucoup du dessin, mais il y a aussi une langue de la bande dessinée clandestine pornographique avec beaucoup de jeux de mots. Et alors là, je sais pas comment vous avez fait, je connais pas le texte d'origine, mais il va parler à un moment, alors comme il est homosexuel, on va plus dire Heil Hitler, mais Hell Hitler, et vous allez on va parler de Der Fuhrer, donc Fouer, et quels étaient les termes d'origine et comment vous avez trouvé tous ces équivalents qui puissent redonner la saveur de la langue?
Alors, j'ai plus en mémoire les textes d'origine, mais effectivement, j'ai voulu tout traduire parce qu'on évoquait tout à l'heure un très joli livre qui existait sur les Tirona Bible où l'éditeur français ne les avait pas traduites. En fait, quand même, les lecteurs français ont besoin, la plus grande majorité des lecteurs, surtout qu'il y a des tartines de textes, d'avoir une traduction pour pouvoir pour pouvoir les comprendre. Donc, alors on aurait pu traduire en mettant des notes de bas de page. C'est assez compliqué les jeux de mots. Hein. Il y a même des poèmes dans Betty Boop. Il a fallu que je réécrive un petit poème en vers de Mirliton.
On termine avec La folle nuit de Tina, Antoine Guillot.
Oui, alors là, c'est sans doute un des points les plus saillants de cet ouvrage. Alors, vous l'attribuez, on parlait de James Hodges tout à l'heure, et lui se dira non, pas du tout, c'est moi. Alors, je trouve ça absolument vraiment stupéfiant de beauté. Il y a un ancrage au pinceau qui est d'une vivacité étonnante, et il y a aussi beaucoup d'inventions dedans. C'est-à-dire, c'est souvent dans ces bandes dessinées, faites un peu à la va-vite, ça peut être un peu paresseux, c'est toujours un peu les mêmes positions, les mêmes situations. Et là, on est dans un art de la surenchère. Sur l'utilisation de divers objets qui vont de la ceinture à la cordelette jusqu'à la petite brosse et autres, et où on sent qu'il y a comme une urgence à faire ça, mais qui dépasse presque l'auteur, comme s'il était emporté par ce qu'il faisait, et ça se voit beaucoup sur le lettrage. C'est-à-dire qu'au début, c'est lettré de manière assez soignée, et puis plus ça avance, plus il y a une sorte de folie qui s'empare de ce lettrage, comme s'il lui-même était en transe de sa création et qu'il perdait sa capacité à écrire, alors que le dessin lui prend des envolées tout à fait stupéfiantes. Enfin, s'il existe d'autres œuvres comme ça de cet auteur, il faudrait vraiment
nous contacter,
l'éditer à part, parce que c'est très très beau.
Écrire à l'émission.
En fait, il y a le James Hodge officiel, érotique, dans les années 70, dans des fumetti, mais non pas italiens, mais français, érotique story et autres, sexo vide.
C'était toujours soft.
Oui, c'est vrai, mais il y a cette même envolée, ce trait, ces déliés, ces chevelures.
Des grands méconnus de la bande dessinée érotique, oui, James Hodge, parce qu'il a beaucoup fait de pin-up, il a beaucoup fait de couverture de romans de gare, mais vraiment en quantité industrielle et de façon alimentaire. Je l'avais interviewé, il me disait qu'il pouvait faire de la pin-up les yeux fermés, et s'il est l'auteur, comme je le suppose, de cette bande dessinée, je pense qu'il n'y a pas mis quelque chose de sa libido personnelle dedans, c'était également alimentaire. Et si vous trouvez que c'est très bien fait, c'est parce que c'est un très bon dessinateur.
Il a un très beau pseudonyme, Jim Fou. Il a signé beaucoup de dessins de presse sous le nom de Jim Fou. Je trouve que ça lui correspond bien.
Eh bien, c'est sous l'invocation de Jim Fou qu'on va cesser donc cette évocation de Bernard Joubert. Panorama de la bande dessinée érotique clandestine, c'est aux éditions La Musardine sous le label Dynamite. Autre actualité éditoriale, il y a Bernard Joubert, la parution donc des mémoires de votre père, le magicien illusionniste Maurice Saltano.
Ah oui, alors là, c'est pas un livre que j'ai écrit, c'est un livre que j'ai maquetté.
Voilà. Et donc, qui nous permet de découvrir sa carrière, je veux dire, la manière dont c'est élaboré, sa vocation, ses activités donc de magicien.
Voilà, je suis le fils d'un couple d'illusionnistes, puisque ma mère était également sa partenaire. Voilà, qui ont eu leur heure de gloire dans les années 50. Enfin, mon père a commencé, il est né en 1930, il a commencé jeune adolescent sous l'occupation, il est devenu professionnel à 16 ans, à la Libération. Et mes parents ont arrêté la scène à ma naissance, en fait. Ils sont devenus agents artistiques, et puis mon père est toujours resté dans les... Moi, j'ai grandi dans ce milieu de la magie et des clowns et du cirque, enfin, qu'il évoque dans ses mémoires qu'il avait écrites au début des années 90 et qui viennent seulement d'être rendues publiques, de paraître aujourd'hui chez un éditeur de magie qui s'appelle la FAP, c'est la Fédération Française des Artistes Prestidigitateurs.
Tous les renseignements à retrouver donc sur notre site Mauvais Genre. Troisième sujet ce soir, donc, dans l'émission, ce qui l'advint du Petit Paul de Bastien Vivès, Antoine Guillot. Oui, effectivement, album paru dans la collection Porn Pop chez Glénat.
Nouvelle collection, chez Glénat, qui reprend, en fait, donc, Petit Paul, des personnages qu'on connaît déjà, puisque c'est la famille héroïne des Melons de la Colère, cette bande dessinée extraordinaire de Vivès, qui avait lancé la collection BDQ au Requin Marteau. Alors ce livre, Les Melons de la Colère s'intéressait plutôt au personnage de Magali, Magali la grande sœur, avec une poitrine très vivésienne, c'est-à-dire tout à fait protubérante, qui était un handicap pour elle, parce que ça lui faisait mal au dos, c'était très compliqué à porter, puis ça suscitait la convoitise des notables du village, et en fait c'était une histoire assez épouvantable de viol de classe, on pourrait dire, hein, où la bourgeoisie s'en prenait au petit peuple des fermiers, ce qui se finissait assez mal pour les tortionnaires. Là donc il reprend le personnage de Petit Paul dans une série d'aventures qui évoque celle de Martine, c'est-à-dire nous avons Petit Paul récite une poésie,
Petit Paul fait du judo,
Petit Paul à l'anniversaire de Mohamed, etc. Et donc là, Petit Paul, on le connaissait donc par Les Melons de la Colère, a un sexe tout à fait disproportionné qui lui pose aussi des tas de problèmes et de mésaventures. Et on est donc dans l'ordre du burlesque, du comique et de cette recherche de Bastien Vivès depuis un certain temps de repousser les limites de l'acceptable actuellement. Alors ça c'est compliqué parce que depuis les bandes dessinées pornographiques interdites, il y a eu quand même un certain seuil de tolérance qui a été dépassé. Donc il faut essayer de pousser encore plus loin. Donc il avait essayé avec un livre précédent dans la collection BDQ, La Décharge Mentale, il parlait de l'inceste joyeux en famille, et puis là donc c'est l'histoire de la sexualité d'un petit garçon et puis des femmes voilées, etc. Enfin il essaye à chaque fois de repousser jusqu'où on peut faire quelque chose. Jusqu'à présent ça passait, et puis tout d'un coup pour Petit Paul, une pétition est lancée sur internet, sur les réseaux sociaux, se scandalisant que des enseignes aussi vénérable que Cultura ou Gibert propose un livre pédophile. C'est comme ça que le livre est dénoncé dans la pétition. Et aussitôt, les enseignes en question prennent peur et avant d'être éventuellement attaquées, décident de retirer les livres. Ou pas, parce que la mise en application apparemment était un peu compliquée. Quand on y allait, on pouvait le trouver. Mais en tout cas, anticipant une éventuelle interdiction d'affichage, en tout cas, ne le mette plus en rayon et le planque. Résultat, le livre qui lance cette nouvelle collection chez Glénat suscite beaucoup d'intérêt, donc à des ventes qui sont bien plus considérables que ce que pouvait espérer Glénat. Formidable opération de lancement, mais on n'est pas à l'abri, je ne crois pas à ce jour. Vous en savez peut-être plus, Bernard Joubert, qu'une association de protection de l'enfance ne s'attaque pas au livre. Mais ce qui est plus intéressant, au-delà de cette... Voilà, ça nous revient régulièrement, hein, ce genre d'histoire, c'est qu'il y a comme un sort de retour de bâton sur Bastien Vivès. C'est-à-dire que depuis une dizaine d'années, et nous en avons été dès le début, François Rangeli, à l'époque du goût du chlore, Bastien Vivès, qui est un auteur extraordinairement doué, enfin qui est un des... avec Brecht Evans, dont nous reparlerons sans doute prochainement en décembre. C'est les auteurs les plus importants qui sont apparus dans les 10 dernières années, succès critique, succès public. Et c'est comme si un certain nombre de personnes qui en ont marre de Bastien Vivès, qui n'ont jamais goûté ce succès à leurs yeux immérité, attendaient le moment de défaillance, qui est aussi celui de l'apparition de son nouveau livre chez Casterman, Le Chemisier, qui est un peu en dessous. C'est un bon livre, mais enfin, c'est en dessous de l'exigence très très élevée qu'on a par rapport à Vivès, enfin, comme Paulina, Une Sœur, enfin, tous ces grands livres, en disant c'est le moment d'attaquer. Alors on voit fleurir sur les réseaux sociaux, dans le milieu de la bande dessinée, chez certains auteurs ou autrices, comme on dit aujourd'hui, des attaques sur Vivès, sur le mode vous voyez, on vous l'avait bien dit depuis le début, cet homme est un redoutable pédophile, pornographe, tout ce que vous voulez, et on ressort même son dessin animé de sortie d'études à l'école des Gobelins, qui est effectivement d'une provocation totale, puisque c'était censé faire un spot pour une chaîne de télévision pour enfants. Et ça prenait, là encore, toutes les limites possibles sur les relations incestueuses, père-fille, viol, etc. Et c'était juste un énorme pavé dans la mare. Mais maintenant, c'est une pièce à charge. C'est-à-dire, on dira, regardez, c'est louche quand même depuis le moment. Puis comme on connaît la parole de Bastien Vivès, on l'a entendu sur cette antenne, ouais, il a une parole tout à fait déliée et libérée.
Tranquille, et tranquille.
Et tranquillement provocatrice. Voilà. Et ben, ça marche très bien en ce moment. Et c'est l'attaque générale, c'est Haro sur le Vivès.
Bernard Joubert. Antoine nous parlait des réactions des réseaux sociaux bédéphiliques. Bon, ça, je suis pas sur Facebook, je suis pas sur Twitter, donc je connais rien. Par contre, ce que je connais bien, c'est la loi les pouvoirs publics, vous le constaterez, ne réagissent pas. Le grand événement de cette affaire, c'est qu'il y a une pétition, on réclame le retrait de ce livre, son interdiction, et pouvoir public, silence total, il ne se passe rien. Et là, il y a une explication juridique que je pourrais vous donner, mais enfin, elle est un peu longue. S'il y a bien quelqu'un qui se sent péteux dans l'histoire, c'est, je dirais, le législateur, celui qui a voté cette loi il y a bien des années, qui se rend compte qu'en fait, c'était pas la loi qu'il voulait.
Il faut quand même préciser que Cultura est partenaire du Festival d'Angoulême, ce qui n'est pas sans poser quelques petits problèmes.
Absolument. Un mot, Christophe Beer ?
Non, ça va retomber, cette histoire. C'est très bien que l'éditeur ait tenu le choc, et puis... De toute façon, oui, il y a un retour de l'ordre moral, mais heureusement uniquement sur les réseaux sociaux. Donc,
on peut féliciter les éditions Glénat de ne pas avoir retiré le livre comme les éditions Milan en début d'année avaient retiré On a chopé la puberté simplement parce qu'il y avait une pétition.
Merci Bernard Joubert d'avoir été ce soir l'invité de Mauvais Genre. On restera bien évidemment très attentif à l'avenir de Petit Paul et nous vous en reparlerons si besoin est. Merci Antoine, merci Christophe, toute l'équipe de Mauvais Genre, Laurent Pelleret, Philippe Marcher, Sam Boutata, Céline Duchesnay, Claire Martin Duguerre, Antoine Guillot, Christophe Beer et François Angelier vous remercient d'avoir suivi cette émission. On se retrouve la semaine prochaine où, à la faveur du grand week-end Japon sur France Culture, nous vous parlerons d'Ishironda et de la Nikatsu. Bonsoir à tous.